Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, dont je suis le ministre des Relations extérieures et de la Coopération, et de l'ensemble de la délégation monégasque, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui dans ce Palais des Nations. Nous aurons l'honneur, dans quelques instants, de vous faire part des mesures mises en œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Principauté de Monaco depuis notre dernier examen en 2018. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler quelques spécificités importantes de Monaco. Monaco est une monarchie constitutionnelle couvrant une superficie d'un peu plus de 2 km². Elle compte 39 000 habitants, parmi lesquels moins de 25% sont des nationaux, soit 9 600 monégasques. La Principauté est une société cosmopolite où près de 140 nationalités différentes vivent en harmonie. De ce fait, les violences verbales ou physiques motivées par la haine y sont rares. Il importe de souligner que la Constitution et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ne contiennent aucune discrimination fondée notamment sur le sexe, les opinions, l'état de santé, les origines ou encore la religion. Mesdames et Messieurs, lors de l'adoption de son rapport par le groupe de travail le 15 novembre 2018, la Principauté a annoncé qu'elle souscrivait à 72 recommandations parmi les 113 formulées. Elle a pris note de 35 recommandations, soit en raison des spécificités du pays, soit en raison de l'utilisation de mécanismes différents pour atteindre des objectifs semblables. Depuis son dernier examen, Monaco a enrichi son corpus législatif. Nous pourrons vous en faire part tout à l'heure. Vous le constaterez, la Principauté demeure très engagée en faveur du respect des droits de l'homme et plus particulièrement de la protection des personnes les plus vulnérables, qu'il s'agisse des femmes, des enfants et des personnes souffrant d'un handicap. Nous poursuivons les actions de sensibilisation sur ce sujet dans les programmes d'éducation. Permettez-moi d'ores et déjà de vous donner quelques exemples. Conformément aux recommandations qui nous ont été adressées, je mentionnerai la création le 25 octobre 2018 du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. S'agissant des droits de l'enfant, je rappelle que tout enfant étranger résidant à Monaco ou dont l'un des parents travaille en Principauté est accueilli dans les établissements scolaires dans les limites des places disponibles sans aucune distinction de sexe ou d'âge. Concernant les droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, diverses mesures ont été mises en œuvre et continuent de l'être par le gouvernement. Il en est de même pour les infrastructures médicales, sociales et gériatriques qui pourront vous être présentées au cours de l'examen. Par ailleurs, les personnes LGBT+ peuvent désormais recourir à un contrat de vie commune ouvert aux personnes vivant en union libre, quel que soit leur sexe, leur permettant ainsi de bénéficier d'une existence légale accompagnée de droits sociaux et d'encadrer la relation patrimoniale. En outre, le droit monégasque réprime de manière particulière la provocation à la haine ou à la violence, les diffamations et les injures publiques et non publiques, ainsi que les menaces commises en raison de l'orientation sexuelle. Quant aux missions du Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, instaurées en 2013, elles vous seront précisées. Ces actions font l'objet de rapports d'activité annuels publiés sur son site Internet. Enfin, s'agissant de la traite des êtres humains, il convient de relever qu'à ce jour, aucun cas de traite n'a été porté devant les juridictions monégasques. Le gouvernement et les services judiciaires travaillent toutefois à la mise en place d'un plan de coordination interservices relatif à l'identification et à la prise en charge de potentielles victimes. Mesdames et Messieurs, Monaco a été invité à ratifier certains textes internationaux qui ont nécessité au préalable une étude approfondie. Il ressort de cet examen que, compte tenu des incompatibilités de nature constitutionnelle et législative avec des dispositions du droit monégasque, la principauté prend note de ces demandes de ratification. Il s'agit des textes suivants. En premier lieu, les protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international sur les droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En second lieu, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Par ailleurs, l'adhésion de Monaco à l'Organisation internationale du travail soulèverait des questions au regard notamment du principe de priorité d'emploi des nationaux qui, je l'ai déjà mentionné, sont minoritaires dans leur pays. Enfin, la ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture induit la création d'un organe indépendant de contrôle des prisons et autres lieux privatifs de liberté. Il apparaît que cet outil de prévention des mauvais traitements est peu adapté à la situation monégasque. En effet, la principauté ne compte qu'une seule maison d'arrêt pour l'exécution de peines d'emprisonnement de courte durée et aucune situation de mauvaise condition matérielle n'a été constatée. En outre, les conditions de détention font d'ores et déjà l'objet d'examens par le mécanisme du Conseil de l'Europe et d'un suivi régulier par les autorités judiciaires. Pour ce qui relève du statut de Rome et de la Cour pénale internationale, nous avons déjà eu l'occasion de préciser que la principauté est déterminée à coopérer avec la Cour au cas par cas. Des demandes d'assistance judiciaire et de coopération ont déjà été présentées par la CPI et Monaco y a donné toutes les suites favorables. Pour ce qui relève plus particulièrement de l'adhésion au statut de Rome, celle-ci ne pourra se concevoir qu'à la condition de la plus parfaite compatibilité avec plusieurs normes juridiques, au premier rang desquelles la Constitution, notamment pour ce qui est du statut du chef de l'État. Enfin, la principauté de Monaco n'envisage pas de modifier la répression de l'infraction d'offense envers la personne du prince ou les membres de la famille du prince. Je préciserai qu'aucune des procédures pour offense envers la personne du prince n'est intervenue dans le contexte d'un débat politique, pas plus qu'elle n'a concerné des journalistes ou des organes de presse. Mesdames et messieurs, consciente des enjeux liés aux objectifs de développement durable d'ici 2030, la politique d'aide au développement du gouvernement a été en constante augmentation depuis sa création en 2007. Monaco répond également aux appels d'urgence humanitaire et apporte son soutien financier à l'action du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Voici en liminaire les premières réponses à vos questions et recommandations. J'ajouterai in fine que dans un pays à taille très réduite, il n'y a pas de mécanisme exclusivement dédié à l'établissement de rapports sur la mise en œuvre des recommandations de l'EPU et autres organes conventionnels des droits de l'homme. Le département des relations extérieures et de la coopération que j'ai l'honneur de diriger établit ses rapports de suivi en consultation constante avec les services de l'État et entités concernées. L'ensemble des questionnaires d'évaluation d'organes internationaux permet d'actualiser nos politiques et de les mettre en œuvre grâce à une concertation diversifiée et efficace. L'importance de notre délégation présente dans cette enceinte en est, je crois, ici la preuve. Je vous remercie.